Tous, j'aimerais revenir ce matin à mon projet de dimanche dernier. Vous inviter à méditer cette parole de Jésus, parole devenue proverbiale, connue au-delà des milieux chrétiens. Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Qui a déjà entendu cette parole? Ah, on n'est pas tous, hein? Voilà. Qui l'a déjà entendu à la radio, à la télé ou par un voisin? Ah oui, quelques-uns quand même. Hein. Donc vous confirmez. Au-delà des églises, au-delà de nos murs, certains citent l'évangile sans le savoir. Et j'ai même entendu le candidat d'un parti que je ne citerai pas cette semaine, tellement il était vexé de n'avoir pas été mis sur la liste, qu'il a eu encore une autre parole de l'évangile. Il a dit « Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'évangile serait donc un message aussi politique? Pour moi, en tout cas, la parole de Jésus, que nous allons lire dans un instant, permet une interrogation toujours d'actualité, celle que je voulais déjà vous adresser la semaine dernière. Mais Dieu a donné une autre orientation au culte et à mon projet. Cette question, elle est là sur cette slide. Quelle place pour l'Église dans le débat politique? Pourquoi poser la question en ces termes? Et peut-être certains se disent déjà, mince, ce n'est pas le bon dimanche. Pourquoi parler de ça aujourd'hui? Mon objectif n'est pas de vous dire quel bulletin vous devez ou non mettre dans l'urne. Mon objectif n'est pas de faire de la morale, mais de nous inviter à nous mettre à l'écoute de cette parole du Christ dans son contexte, nous allons le voir. D'une part, parce que c'est bien à une question politique que Jésus est appelé à répondre. Et d'autre part, parce que cette question peut se poser, et elle doit même se poser au regard du contexte politique dans lequel nous sommes. La deux. En effet, et Olivier, t'es là. C'est le cerveau, on a une mémoire. Voilà. Olivier a commencé en nous rappelant un peu ce contexte et je pense qu'il a voulu, surtout dans la première partie, il était conduit avec l'équipe, à parler d'une certaine manière à nos angoisses, à nous dire que Dieu règne de toutes les façons. Sur fond d'une abstention de 48,5%, c'est donc le premier parti hein, européen, c'est l'abstention, c'est aussi le premier parti français. Les électeurs ont donc placé en tête la liste du Rassemblement national, donc ex-Front national, conduite par M. Jordan Bardella, 31,37% des voix, loin devant les listes concurrentes. Et sur ce fait politique majeur, vous l'avez vu comme moi, le président de la République a prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale et convoqué le corps électoral aux élections nouvelles législatives qui se tiendront les 30 juin et 7 juillet prochains. Et le contexte donc politique est celui-ci. Et le chrétien n'est pas en dehors de la cité. Le chrétien n'est pas en dehors du pays. Le chrétien n'est pas en dehors de ces réalités. Et se pose donc des questions, à juste titre, et je l'espère, comme monsieur et madame tout le monde. Comme citoyen, mais pas que, comme chrétien également. Et celui qui réfléchit à la question de savoir quelle place l'Église peut-elle avoir dans le débat politique doit d'abord partager un constat difficile. Alors j'emprunte les mots d'un sociologue français, par ailleurs chrétien, membre d'une église évangélique mennonite, Frédéric de Coninck, qui a écrit plusieurs livres. Et j'emprunte ces mots ici dans un de ses livres, Être celle de la terre dans un monde en mutation, un livre publié aux éditions Excelsis en 2019, les pages 17 à 18. Qu'est-ce qu'il nous dit, Frédéric de Coninck? Il nous dit que nous vivons actuellement, à tout le moins, dans les pays européens. C'était en 2019. Vous voyez qu'il n'est pas là pour. Enfin, je n'instrumentalise pas son commentaire. Déjà, il faisait ce même constat. Nous vivons actuellement, à tout le moins, dans les pays européens, dans des sociétés dominées par des peurs diverses. Des sociétés très largement en panne d'espérance. Peur de perdre son emploi, peur de tomber dans la pauvreté, peur d'être environné de personnes qui ne partagent pas la même culture ou les mêmes valeurs, peur des épidémies, peur des catastrophes naturelles ou industrielles, peur du terrorisme, peur d'être cambriolé ou être agressé, peur que ses enfants aient une vie moins bonne que la sienne. Et il ajoute, un peu plus loin, l'avenir, tel que beaucoup de personnes se le représentent, ressemble plus à une menace qu'à une promesse. Et il nous dit, et la phrase n'est pas affichée ici, il y a un rapport étroit entre la présente crise de l'espérance et nombre de comportements qui se répandent à l'heure actuelle. Il y a un rapport étroit entre l'espérance, ou précisément l'absence d'espérance dans nos sociétés, et les comportements que cette absence d'espérance provoque. Quels sont ces comportements? Quelles sont ces attitudes? Frédéric de Coninck nous dit le repli, faute de projets porteurs d'espérance, des réactions défensives, faute de discerner comment on pourrait aller de l'avant, l'agressivité face aux différentes figures de l'autre que l'on perçoit comme une menace et non pas comme une chance, les réactions à courte vue et à court terme du fait de la perte de perspectives crédibles à moyen terme. Alors oui, osons poser la question ce matin, quelle place peut prendre l'Église dans le débat politique? J'aimerais tenter de réfléchir et répondre à cette question avec vous ce matin en partant donc de ce passage de l'Évangile. Je lirai l'Évangile de Marc, chapitre 12, versets 13 à 17. Vous êtes toujours là? Ça vous intéresse comme sujet? Maintenant que vous êtes là, je demande toute votre bienveillance puisque même si ça ne vous intéresse pas, on doit finir le culte ensemble. On envoie auprès de Jésus quelques pharisiens et quelques partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai, tu n'as peur de personne, tu ne tiens pas compte de l'apparence des gens, mais tu enseignes en toute vérité le chemin qui plaît à Dieu. Dis-nous, est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Devons-nous payer, oui ou non? » Jésus connaissait leur hypocrisie. Il leur dit alors, « Pourquoi me tendez-vous un piège? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une, et Jésus leur demanda, « Mais cette image et cette inscription, de qui sont-ils ?»« De César !» lui répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Et il les remplissait d'étonnement. Le contexte de ce passage est un contexte polémique. Et nous sommes déjà dans l'évangile de Marc, et dans ce contexte, c'est la troisième polémique, la troisième divergence, disputation entre Jésus et ceux qui viennent le sonder, le jauger. Et cette polémique va aller en s'intensifiant. Et il est aussi important de rappeler que quelque temps plus tôt, Jésus a fait son entrée à Jérusalem et il a été accueilli comme celui qui incarne et inaugure le règne de Dieu. Les foules chantaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur. Le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus a minutieusement mis en scène son entrée à Jérusalem de cette manière. Assis sur un simple ânon et recevant les louanges de la foule, Jésus assumait publiquement par ce geste symbolique non seulement qu'il s'inscrit effectivement dans la lignée royale de David, son ancêtre, mais encore qu'il est le roi Messie accomplissant l'annonce des prophètes. Toutefois, Jésus n'est pas le roi que se représentaient ses contemporains. Il veut être un roi subversif d'une certaine façon. Certains l'attendaient, va en guerre contre l'occupant romain, mais lui se présente comme un roi humble et pacifique. Les autorités et les puissants du monde imposent leur autorité par la force et l'épée. Lui, au contraire, n'imposera pas son autorité par la force de l'épée, mais par la force de son amour, de sa parole, par la force de son service, de sa vie mise au service du prochain, jusqu'au don total de celle-ci à la croix, pour le pardon des péchés d'une multitude. Ce Jésus subversif et déroutant exaspère au plus haut point les autorités religieuses de son temps, qui cherchent par tous les moyens à lui tendre des pièges pour l'accabler et entraver son ministère. Ne parvenant pas à le confondre au plan de l'enseignement théologique, ils vont maintenant sur un terrain glissant, celui de la politique. Et depuis toujours, c'est un terrain glissant. Si je glisse ce matin, rattrapez-moi avec amour. La question qu'il pose à Jésus est une question piégée, mais c'est une question débattue déjà du temps de Jésus et même avant l'arrivée de Jésus. Slide suivante. Dis-nous, est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Devons-nous payer, oui ou non? Il y a quelque temps, nous avons fait un sondage et certains m'ont dit que les questions étaient fermées. Voici une question fermée. On vous laisse le choix entre l'alternative du oui et du non. C'est très précis et c'est très fermé. Si vous avez un minimum de formation en communication publique, vous savez qu'il faut tout faire pour ne jamais se laisser enfermer dans le oui ou le non. Vous savez qu'il faut tout faire pour desserrer les mâchoires, les taux de ce oui ou non. Et Jésus avait une sagesse pour communiquer et transmettre de manière pertinente son point de vue. Alors, le texte nous dit qu'il y avait deux camps qui s'étaient mis d'accord. Les Hérodiens, comme leur nom l'indique, sont ceux qui étaient favorables au pouvoir politique de Hérode, hein, Antipas, le tétraque qui gouvernait sur les quatre provinces là, de la Galilée. Et ils se sont mis d'accord, non pas sur le plan théologique, mais sur le plan du complot. Ils se sont mis d'accord avec les pharisiens, parti rigoriste, légaliste, pour piéger Jésus sur le terrain politique. Dis-nous. Et la question du paiement de l'impôt à César faisait donc débat parmi les Juifs du temps de Jésus. Les commentateurs nous apprennent que les Juifs supportaient mal, et on peut le comprendre, le fait de payer l'impôt à l'occupant romain. Une révolte menée par un certain Judas le Galiléen contre l'impôt avait même été soulevée et réprimée par les Romains. Cette question divisait, y compris au sein du peuple juif. Ceux qui payaient cet impôt étaient considérés comme des collaborateurs, des gens résignés, sans honneur, qui ne tenaient pas compte du scandale, de l'humiliation que représentait cette colonisation romaine, cette occupation romaine. En revanche, ceux qui ne payaient pas l'impôt prenaient le risque de s'attirer le courroux, la colère de l'autorité romaine en réprimant à ce qui constituait en quelque sorte un appel à la révolte. Et même si ces interlocuteurs, vous l'avez remarqué, usent d'une arme redoutable que tout leader doit apprendre également à détecter, c'est la flatterie. Le livre de Proverbes nous parle d'ailleurs souvent des paroles mielleuses et flatteuses. Et ils abordent Jésus avec des paroles tout à fait valorisantes. Ils veulent l'endormir d'une certaine façon ou l'aveugler. Nous savons que tu es un homme qui n'a pas peur. Nous savons que tu es un homme qui ne juge pas en fonction des apparences. Nous savons que tu es un enseignant et que ce que tu enseignes est vrai. Alors dis-nous. Et pour sortir du piège de ce dilemme, Jésus va demander qu'on lui apporte l'objet de la question. Et ce qui est d'ailleurs ici un signe de l'humour de Jésus, c'est qu'il va faire sortir l'objet du débat de leur propre poche. Montrez-moi de quoi on parle. Est-ce que je peux voir ? Vous pensez sérieusement de vous à moi que Jésus n'avait jamais vu une pièce de son temps là ? Non. Vous savez qu'une fois il a envoyé pêcher pour prendre dans le ventre d'un poisson une pièce, c'était aussi pour payer l'impôt. Hein ? Donc il avait déjà vu une pièce. Mais il voulait leur montrer qu'il n'est pas dupe de leur intentions. Montrez-moi, alors ça sort de leur poche. Il dit, ah, mais je vois une tête dessus. C'était la tête de Tibère César. En disant, mais à qui est cette effigie? Ils lui répondent, mais à César. Il dit, bah alors, si cette pièce appartient à César, rendez à César ce qui lui appartient. Et à Dieu. C'est ce qu'ils n'attendaient pas. Et à Dieu, ce qui est à Dieu. Mais qu'a voulu dire Jésus ? Ce passage peut-il nous aider à répondre à la question initiale ? Quelle place pour l'Église dans le débat politique ? Si Jésus a mené sur un terrain politique, comment sa manière de répondre et de se positionner peut nous aider, nous aussi, dans le contexte dans lequel nous vivons ? Alors certains ont vu, slide suivante, un principe de séparation des pouvoirs, qu'on dit des pouvoirs temporels et spirituels. Est-ce bien cela que Jésus a voulu dire ? Serait-ce la laïcité avant la loi de 1905 que Jésus a voulu poser ici ? Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu signifierait qu'il faut séparer les domaines politiques et religieux. Vraiment ? Alors ce serait ce qu'on appelle un anachronisme, c'est-à-dire véritablement ce serait convoquer dans notre lecture et dans notre interprétation un principe qui n'était pas posé du temps de Jésus tel quel. La laïcité, en tout cas à la française, a émergé au tournant de la fin du 19e siècle et début 20e siècle avec la loi de 1905 qui l'a consacrée. Jésus ne vous a pas échappé, qui n'a pas vécu au 20e siècle. Donc attention à nos biais culturels, à la façon de lire, d'autant plus que les historiens nous rendent attentifs au fait qu'à l'époque de Jésus, même si les sphères sont un peu distinguées, elles ne sont pas complètement séparées. César n'entend pas seulement régner sur les impôts. César entend être seigneur de tout. Et d'ailleurs, la religion a constamment été mélangée à cette époque-là aussi à la politique. La religion instrumentalisant le politique instrumentalisant la religion. Donc, même si on peut considérer que le protestantisme, historiquement, Luther, Calvin l'ont fait, a distingué ce qu'on appelle la sphère du pouvoir temporel, donc le domaine civil, et le pouvoir spirituel dans le domaine religieux, force est de constater que Luther et Calvin n'ont jamais complètement séparé les deux. Luther est allé jusqu'à reconnaître l'autorité des magistrats pour gouverner l'Église, pour poser le cadre de l'Église de son temps au XVIe siècle. Calvin, à Genève, a plaidé pour la distinction des règnes, mais il reconnaissait l'autorité des magistrats dans la ville de Genève. Il a quitté la ville de Genève quand ceux-ci ont voulu intervenir dans la discipline de l'Église. Pour Luther comme pour Calvin, César exerce un pouvoir, une autorité, mais c'est une autorité qu'il n'exerce pas en dehors de la souveraineté de Dieu. Rendez à César ce qui est à César peut nous évoquer une autre question. Est-ce donc la reconnaissance des autorités et des institutions civiles que Jésus vise ici ? C'est une autre compréhension possible, puisque Jésus va dire qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui appartient. Il va donc reconnaître que même si l'autorité en place n'a pas été choisie, et pas les Juifs de l'époque qui n'ont pas choisi César, Tibère, l'autorité en place leur a été imposée. Il considère néanmoins que même si les institutions humaines, même si les autorités humaines sont imparfaites, elles sont nécessaires. Et lui ne veut pas rentrer dans un discours qui dit « abat les autorités ». Il ne veut pas rentrer dans un discours qui dit « c'est l'anarchie ». Il veut rentrer dans un discours qui dit « certes, c'est peut-être injuste, mais les autorités sont là, les instances sont là, les institutions humaines sont ce qu'elles sont, et elles ont quand même leur légitimité ». Antoine Nuis, théologien français qui est dans notre région, commentant un peu ce passage, dit « Mettre l'effigie de César sur une pièce de monnaie était plus qu'une décoration. C'était la marque que toute la monnaie circulant dans l'Empire appartient à César. Et en proposant de rendre à César ce qui appartient à César, Jésus sort du piège dans lequel il était enfermé en ramenant la question à son niveau le plus trivial. Puisque l'argent appartient à César, quel mal y a-t-il à le rendre ? » Et on peut aller un peu plus loin. Si l'effigie de César montre que l'argent lui appartient, eh bien, l'homme est créé à l'image de Dieu, l'homme étant effigie, l'être humain étant effigie de Dieu, alors tout être humain appartient à Dieu. Tibère César étant humain, alors Tibère César appartient également à Dieu. Et de même qu'on reconnaît son autorité, il devra lui aussi reconnaître l'autorité de Dieu. Jésus nous encourage donc à participer. Nous payons des impôts tous, au moins la TVA. C'est une participation. Cet argent levé, collecté, sert à faire des choses, à mettre en place des politiques publiques. Bien sûr que nous sommes tous pareils, nous cherchons à payer le moins possible. Ça s'appelle l'optimisation fiscale. Certains font plus que l'optimisation fiscale. Ils dérobent, ils se cachent, ils planquent. Et vous savez combien de scandales cela a soulevé. Même un certain ministre devant l'Assemblée, les yeux dans les yeux. Mesdames et messieurs, je peux vous dire, je puis vous dire que je n'ai pas, que je n'ai jamais eu un compte en Suisse. Mal lui en a pris, il avait menti. C'était une cahuzade. Jésus est en train de nous dire que le principe pour les chrétiens, ce n'est pas d'être dans la sédition. Même quand l'autorité en place n'est pas une autorité que nous avons légitimée. Le principe pour les chrétiens est première balise, quelle place l'Église peut-elle prendre dans le débat politique ? Eh bien, elle peut élever la voix comme le Christ pour dire de participer, de prendre sa part à la vie de la cité, de prendre sa part aux politiques de la cité, parce que l'impôt sert à ça, à cela, précisément. Le chrétien ne peut donc pas dire « je ne paye pas les impôts parce qu'il y a des politiques sociales progressistes avec lesquelles je suis en désaccord. Je ne paye pas les impôts parce qu'ils financent les centres d'orthogénie et comme je suis contre l'avortement, je ne paye plus l'impôt. » Jésus est en train de dire ce raisonnement-là, ce n'est pas possible. Tu payes l'impôt et ça n'enlève en rien le fait que toi tu sois contre. Il faut que tu participes. Et cela ne dit rien sur tes convictions, ce n'est plus ta responsabilité. Les autres auront à rendre des comptes sur la façon dont ils l'utilisent. Tu ne peux pas dire j'utilise les routes nationales, départementales, communales, mes enfants vont à l'école publique et même privée, mais je ne paye pas l'impôt parce que je ne suis pas d'accord avec telle ou telle décision que mon pays a prise, dans l'Union européenne ou pas, j'en sais rien. Jésus dit non, donnez à César ce qui est à César, et César lui-même aura des comptes à rendre. Un principe donc d'incitation à participer à la vie de la cité. Dans un contexte électoral marqué par un taux d'abstention élevé, l'Église peut être cette voix Elle doit faire entendre sa voix, ou à minima encourager le principe de la participation en appelant tous les citoyens à aller voter. Juste un petit partage personnel. Pendant une dizaine d'années, quand je suis arrivé en France, je n'avais pas la nationalité. J'avais un titre de séjour d'un an, renouvelable chaque année. C'est fastidieux, ça ne se donne pas comme ça. Il faut toujours prouver pourquoi on est là, prouver qu'on est assidu, prouver qu'on est en règle, etc. Et je comprenais que je n'avais pas le droit de voter. Après, j'ai eu la carte de résident. Je le dis parce que mes frères et sœurs, peut-être français, européens, ne savent pas toujours le parcours que cela est. La carte de résident est une carte de 10 ans. Vous payez des impôts, vous participez, vos enfants sont à l'école, etc., etc. Mais vous n'avez toujours pas le droit civique de voter. Comprenez ça? Et si vous voulez comprendre combien c'est douloureux, regardez ce qui se passe en ce moment en Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'il se joue. Naître, grandir dans un endroit de votre pays où il y a des accords historiques qui disent on a gelé le corps électoral, vous ne pouvez pas voter, même si vous êtes devenus nombreux, même si vous avez fait 20 ans là sur place. Et nous on dit, mais les caldoches, qu'est-ce qu'ils font? Et tout. Mais ils disent, mais non, c'est notre terre. Les mêmes problématiques d'occupation, les mêmes problématiques de questionnement de la juste position de l'autorité et de la politique. Et puis, avec mon épouse, nous avons décidé, parce que nous voulions participer et parce que Dieu nous a fait la grâce d'accueillir 4 enfants sur ce pays, sur cette terre, qui sont nés là. Et pour eux, nous voulions leur montrer un exemple de participation, un exemple d'assimilation, un exemple de vivre aligné, de vivre heureux dans un pays d'accueil. Nous sommes donc devenus Français et Françaises, tous. Et à partir de ce moment-là, nous étions accueillis à la préfecture sur les dorures, en quelque sorte, de la République, pour nous remettre notre décret de naturalisation. J'avais promis au Seigneur d'utiliser ce droit comme un devoir de responsabilité, de donner mon point de vue, quel qu'il soit. C'est précieux. C'est précieux. À minima, nous ne pouvons pas nous satisfaire du taux d'abstention dans notre pays, quelle que soit par ailleurs notre option politique. Nous devons encourager la participation et le vote. Contrairement aux premiers chrétiens qui vivaient dans des régimes impérialistes et dans des sociétés très inégalitaires, y compris du point de vue des droits civiques, nous qui vivons aujourd'hui dans l'espace européen, et cela nous a été rappelé, en démocratie, et même si cette démocratie est perfectible, mais de plus en plus fragilisée, vous le voyons, nous avons la possibilité de participer au choix de ceux qui dirigeront la nation, de ceux qui auront la lourde et délicate et complexe responsabilité de légiférer des lois qui vont nous obliger. Nous avons le privilège, avec le passeport français, de voyager sans demander de visa en 193 pays. En devenant français, l'une des conséquences immédiates, parce que mon pays d'origine n'en est pas encore là, c'est que j'ai perdu ce droit. Je ne suis même plus citoyen camerounais. Coucou, tu penses à moi aussi ? Tabitha, est-ce que vous savez que pour entrer dans mon pays, je dois demander un visa dans mon pays d'origine? Voilà pourquoi on ne peut pas avoir le même rapport à la citoyenneté française. On ne peut pas avoir le même rapport à ce que cela signifie. J'ai perdu une citoyenneté qui m'a été donnée de naissance. À un point que pour amener mes enfants voir leur grand-mère, je dois payer des milliers d'euros de visa et de billets d'avion. Mais j'ai choisi, un peu comme Ruth d'ailleurs, j'ai choisi aussi de vivre dans un peuple, de m'y assimiler, et ça me donne des droits. Et ce droit, c'est un droit de participation, un droit de donner mon point de vue. Et j'aimerais tant nous encourager, pour nous qui sommes français, françaises, de donner notre point de vue. Je pourrais dire, ça ne me concerne plus. Effacer le droit du sol, ça ne me concerne plus, je ne risque plus rien. Mais je veux donner mon avis, non seulement pour moi, mais pour les autres. Je veux donner mon avis. Un autre principe évangélique Que cela nous plaise ou non, la Bible nous invite au respect des autorités et nous allons lire quelques textes qui le soulignent. 1 Pierre, chapitre 3. Que chacun se soumette... Romains, chapitre 13. C'est moi qui suis allé trop vite. Que chacun se soumette aux autorités qui exercent le pouvoir, car toute autorité vient de Dieu. Celles qui existent ont été établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre voulu par Dieu. Ceux qui s'y opposent attireront le jugement sur eux-mêmes. Suivant. Slide suivante. C'est pourquoi, il est nécessaire de se soumettre aux autorités. Non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore pour devoir de conscience. C'est aussi pourquoi vous payez des impôts, nous dit Paul, car ceux qui les perçoivent sont au service de Dieu pour accomplir soigneusement cette tâche. Pour Paul, nous sommes au 1er siècle. Et je rappelle que l'autorité à son époque, ce n'est pas une autorité qu'ils ont élue démocratiquement. C'est une autorité avec laquelle ils ont plein de différences au plan moral, éthique. Mais Paul dit que ces autorités, qu'elles le veuillent ou non, sont instruments dans les mains de Dieu. Et il parle d'ailleurs même des magistrats en disant que ces autorités ont un pouvoir délégué de Dieu pour contenir le mal, pour contenir le tohu-bohu, le chaos, pour dire le droit, pour sanctionner le fraudeur, pour sanctionner celui qui apporte le désordre et pour rétablir la cohésion sociale et la justice. Nicolas Farelli, qui est le président de notre fédération, commente en ces termes ce passage. Selon Paul, Dieu ne désire donc pas l'anarchie. C'est d'ailleurs pour assurer au monde un certain ordre et une certaine justice qu'il a institué des autorités en attendant que Jésus, lors de son retour, rende parfaite toute chose sur terre comme au ciel. Ainsi, ce passage n'est pas une sorte de carte blanche qui permettrait aux autorités politiques de faire ce qui leur plaît sous couvert qu'ils tiennent leur pouvoir de Dieu. Et c'est l'Église qui peut le leur rappeler. Ce n'est pas une carte blanche qu'on vous donne. Dieu ne vous a pas donné une carte blanche, mais vous a donné un mandat. Un mandat qui consiste non pas à vous servir, mais à vous mettre au service d'un bien commun qui dépasse les intérêts partisans. Bien qu'établies par Dieu, ces autorités demeurent responsables devant lui de l'autorité qu'elles exercent. Elles sont au service de Dieu. Les autorités humaines ne sont pas au-dessus de la loi de Dieu et encore moins au-dessus de Dieu lui-même. Cette dernière phrase nous rappelle les limites. Il ne s'agit pas ici de dire qu'on s'écrase devant tout, qu'on n'a pas notre mot à dire, qu'on soit simplement, comme on dit souvent au sujet des églises, des bénis oui-oui. Non, ce n'est pas ce que l'Écriture dit. Mais c'est une chose de ne pas être un béni oui-oui républicain. C'est autre chose d'être dans les invectives. C'est autre chose d'associer sa voix à ceux qui vont prôner l'anarchie ou le chaos ou le désordre social ou la violence. L'Écriture met un certain nombre de balises pour nous aider à discerner comment dans une société imparfaite, comment avec des institutions imparfaites, nous devons toujours choisir le moindre mal. Le moindre mal. Quand il n'y a pas de solution parfaite, nous devons arbitrer en considérant ce qui est le moindre mal. Le moindre mal pour la cohésion sociale, le moindre mal pour l'avenir du pays, le moindre mal pour l'unité d'une nation, le moindre mal pour les enjeux qui concernent les générations et des générations, que ce soit la dette, que ce soit notre rapport à l'écologie, que ce soit notre rapport à la solidarité, etc. Nous devons chercher ce qui est le moindre mal. Parce qu'aucune institution et aucune politique ne sera jamais parfaite. Et pour le moment, il n'y a pas le bulletin avec le nom Jésus parmi les professions de foi qui vont vous être adressées. Je n'ai pas trouvé. Quand je suis allé pour voter aux Européens, il y avait 38 listes. Je n'ai pas vu la liste de Jésus. Mais il fallait que je fasse un choix. Et j'imagine que ça va encore être le cas prochainement. Il y aura beaucoup de listes, pas 38 quand même. Il n'y aura pas une liste écrite Jésus. Et quand bien même il y aurait une liste écrite partie, par exemple, chrétien, ça ne nous garantit rien. Parce que ce n'est pas Jésus qui va mettre en œuvre le programme. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Avant Montrons quand même que Paul et Pierre se sont accordés et montrons aussi ce que Paul dit à Timothée avec les passages qui suivent. On va aller vite. L'apôtre Pierre, qu'on a souvent tendance à opposer avec Paul, sont d'accord, ils ont bien compris Jésus. Et je parle en même temps sous leur autorité. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité humaine. Et souvenez-vous qu'il parlait même à des gens qui étaient esclaves. Et que même dans l'Église et parmi des chrétiens, certains avaient des esclaves. Et que les maîtres d'esclaves étaient intégrés dans cette structure sociale et étaient autorités sur leurs esclaves. Nous avons lu la lettre de Paul à Philémon, par exemple. Il a dit « par amour pour le Seigneur ». Autrement dit, les apôtres se méfiaient que leur ministère soit perçu comme un ministère qui veut faire la révolution politique. Ils ne confondaient pas la cité des hommes et la cité de Dieu. Ils ne confondaient pas le monde, leur nation ou l'empire de César et le royaume de Dieu. Mais on pourrait dire « ah ben si ce n'est pas le royaume de Dieu, alors désintéressons-nous ». Ils disent « non, au contraire ». Vous allez être une figure prophétique. Par votre manière de vivre, vous allez montrer qu'une société alternative est en création. On va y arriver. Mais en attendant, soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité humaine, à l'empereur qui a le pouvoir suprême, au plan politique, mais pas au-dessus de Dieu, et au gouverneur envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour louer ceux qui font le bien. En effet, ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, la recherche du bien commun. Le bien, pas seulement selon nos critères, le bien commun. Vous réduisez au silence les gens ignorants et stupides. La suite. Conduisez-vous comme des personnes libres. On l'a chanté, Galates, chapitre 5. Cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir la malveillance. Notre liberté de conscience, notre liberté de voter telle ou telle partie ne doit pas utiliser comme un voile pour nous empêcher de nous poser des questions. Des bonnes questions, pour nous empêcher de ne pas voir que nous associons une voix à des options qui produisent des conséquences politiques. À vous de juger si c'est le bien qui doit l'emporter ou pas. Agissez plutôt comme des personnes qui sont au service de Dieu. Respectez tous les êtres humains, aimez vos frères et vos sœurs en la foi. Reconnaissez l'autorité de Dieu, respectez donc aussi l'empereur. C'est curieux, cette formulation. Reconnaissez donc l'autorité de Dieu, respectez donc aussi l'empereur. Donc, ma façon de parler des autorités ou des figures d'autorité, ma façon de les d'être dans la défiance, ma façon de les humilier, ma façon de les insulter, ma façon de les dévaloriser, etc., quelle que soit par ailleurs la responsabilité qu'ils auront à rendre devant Dieu, n'est pas non plus conforme à ce que Dieu m'appelle à vivre en tant que chrétien. Ce n'est pas parce que l'autorité se délégitimise, ce n'est pas parce que l'autorité se fourvoie, ce n'est pas parce que l'autorité peut faire preuve de cynisme même, que moi, je dois être enrôlé dans une dynamique qui n'est pas celle de Dieu. Reconnaissez l'autorité de Dieu, respectez donc aussi l'empereur. Or, nous n'avons plus des empereurs, mais le principe du respect est le même. Et parce qu'ils ne sont pas parfaits, et parce que l'enjeu dépasse les partis, l'apôtre Paul dit ceci à 1 Timothée au chapitre 2. En tout premier lieu, je recommande quand on l'adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications, des remerciements pour tous les êtres humains. Et il va commencer à décliner, à faire des fonctions, des F', des dérivés plutôt. Hein. Prions pour les rois et pour toutes les personnes qui détiennent l'autorité. Ce n'est pas une option. C'est un impératif que pendant ce temps, quelle peut être la contribution de l'Église dans le débat public ? De se tenir à la brèche, de prier pour toutes les personnes qui vont être appelées à exercer cette mission ô combien difficile et complexe. Est-ce que nous le faisons assez ? Je confesse que non, personnellement. Et je veux entendre ici l'appel de Dieu, humblement, à changer d'attitude. À ne pas être dans une parole simplement une parole outrancière, mais à venir devant le trône de Dieu et à prier. C'est une manière concrètement de prendre sa place dans le débat politique. Pourquoi ? Voilà l'objectif pour les apôtres à ce moment-là. Afin que nous puissions mener une vie tranquille. Les Ukrainiens ont perdu cette possibilité de mener une vie tranquille. Israéliens, Palestiniens ont perdu cette possibilité de mener une vie tranquille depuis longtemps. Libanais, etc. Or, le bien commun, la paix civile, la paix entre les nations est aussi sur le cœur de Dieu, est aussi un enjeu que l'Église doit rappeler. Lorsque les camps se durcissent, se cristallisent et que les oppositions se solidifient, seule l'Église peut être cette voix du milieu, cette voix qui parle et aux uns et aux autres pour la recherche de la paix, pour la recherche de ce qui est cher au cœur de Dieu, du bien commun. Pas seulement parce que ça ne nous concerne pas directement, en tout cas nous ne le voyons pas, mais parce que c'est le bien commun même de l'humanité. Je n'ai pas envie de me prendre une bombe nucléaire. Alors je prie et je persévère dans la prière pour que des voies de paix soient trouvées, pour que les armes cessent, pour qu'advienne de nouveau un ordre respectueux des uns et des autres. Pourquoi ? Parce que je veux mener une vie tranquille. Parce que pendant que nous menons une vie tranquille, j'ai la liberté d'annoncer l'Évangile. Parce que pendant que nous menons une vie tranquille, j'ai la liberté de vivre pleinement ce que Dieu m'appelle à vivre. Pour moi, pour mon épouse, pour les enfants, etc. Mais je ne veux pas juste une vie tranquille pour moi. Une vie tranquille pour toutes les nations et pour toutes les nations et pour tous les peuples. Une vie paisible, une vie respectable, dans un parfait attachement à Dieu. Voilà comment l'apôtre Paul nous invite à prier, non seulement pour les autorités, mais pour les peuples et pour les nations. Alors la réponse de Jésus nous dit, de Paul dit, voilà ce qui est beau et agréable. Quand nous allons réfléchir, quand vous lirez les professions de foi, relisez ces passages de l'Écriture et demandez, Seigneur, qu'est-ce qui est bon ici? Qu'est-ce qui est agréable ici? L'idée n'est pas de trouver la profession de foi chrétienne dans la politique, mais une fois de plus, d'écarter le pire et de choisir le moindre mal. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et je voudrais conclure ici. Les apôtres ont été eux-mêmes confrontés à des choix difficiles. Et peut-être nous ne nous rendons pas compte que dire que Jésus est Seigneur, c'est la prochaine slide, était pour eux un risque terrible. C'était pour eux une parole subversive. Dire que Jésus est Seigneur était un message qui avait des conséquences politiques. Oui, parce que c'était une reconnaissance que César, en tout cas tous les Césars, n'étaient pas seigneurs, que leur autorité n'était que relative. Mais celui qui règne, comme nous l'avons chanté, c'est le Dieu trinitaire. Jésus est Seigneur. Et il n'est pas seulement Seigneur et quelqu'un l'a prié dans le monde, dans notre monde, à nous. Je ne sais pas si Elisabeth qui a dit, il n'est pas seulement Seigneur de l'Église. Il n'est pas seulement le Dieu puissant dans l'Église. Il est le Seigneur de tout. Il est le Seigneur sur tout l'univers. Il est le Seigneur aussi sur notre société sécularisée et laïque. L'Évangile a donc un message, des implications politiques. Dans notre société française, contrairement à ce que l'on peut souvent entendre, le principe de la laïcité, tout en affirmant la neutralité de l'État par rapport à la religion, garantit aussi la liberté à chaque citoyen de croire ou de ne pas croire, de pouvoir ou non exercer son culte dans le respect de l'ordre public. La laïcité ne devrait donc pas signifier que les religions n'ont pas une voix à faire entendre dans le débat public et politique. La laïcité ne devrait pas signifier que les religions et les chrétiens n'ont à parler de leur foi que dans la sphère privée. Jean Bobéro, historien, spécialiste de la sociologie religieuse, est le fondateur d'ailleurs d'une chaire de laïcité religieuse en France. C'est le spécialiste français que tous consultent sur la laïcité en France. Il est protestant. Et ça ne l'a pas empêché d'être un universitaire exigeant. Voici ce qu'il dit. Le respect des lois s'impose à tous et j'ai l'impression, d'après les échos qui me reviennent, que de plus en plus nombreux sont ceux qui voudraient empêcher toute forme d'évangélisation. Évidemment, s'il s'agit d'une évangélisation qui fait du forcing et harcèle les gens spirituellement, la laïcité rappelle le droit de réserve, de discrétion et du témoignage dans le respect de l'autre. Mais la laïcité n'a jamais interdit l'évangélisation. Elle n'a jamais interdit le prosélytisme dans le sens le plus courant du mot, c'est-à-dire l'appel à se convertir, à changer de religion ou à adopter une religion si on n'en a aucune. À ce sujet, Il faut pouvoir répliquer à toute personne qui profiterait de sa fonction de manière abusive pour faire passer sa propre conception de la laïcité, de sa fonction, ou même pour baptiser laïcité sa propre bêtise, ce sont les mots de Jean Bobéro, comme on le constate dans certains cas les plus grossiers. Il faut être des gardiens sereins et vigilants du respect de la liberté religieuse contenue dans la laïcité. Telle est aussi une manière d'être un militant laïque. Et la laïcité a tout à gagner à ne pas tomber dans le fanatisme anti-religieux. J'estime que la bonne mesure dans une société laïque consiste à dire que Jésus-Christ doit être respecté comme Jean Jaurès ou comme De Gaulle. Et que ce qui est inconvenant de dire pour eux l'est aussi pour Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le spécialiste français de la laïcité qui remet ici les pendules à l'heure. Alors, quelle place pour l'Église dans le débat politique? On va aller à la dernière slide de conclusion, à l'avant-dernière. Premièrement, je l'ai rappelé, notre place est d'abord celle de porter une espérance. Le constat de départ, c'est que nos sociétés sont en panne d'espérance. Et nous avons une parole, un message, un évangile, une bonne nouvelle qui propose une espérance vivante. Et cette bonne nouvelle, nous ne pouvons pas la taire. Quand on a voulu faire taire les apôtres, ils ont dit, jugez-en vous-même. Faut-il obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Dans d'autres versions, c'est il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils ont payé le prix de ce positionnement, ils ont accepté les coups. Ils ont accepté parfois le rejet et l'humiliation que nous esquivons à tout prix, au point de nous taire de plus en plus. La laïcité est au contraire un cadre qui garantit notre liberté fondamentale de dire, de nous exprimer, de parler de notre foi, à qui veut bien nous prêter attention dans le respect et avec douceur. Nous avons une parole d'espérance à annoncer. L'Église peut rappeler aussi que les autorités et les institutions humaines, pour légitimes qu'elles sont, restent imparfaites. Et elle peut continuer d'encourager les chrétiens à prier pour elles, à les respecter et à rejeter toute forme d'anarchie. L'Église n'est pas seulement appelée à être dans le discours, dans des postures de principe, elle est appelée à incarner une société alternative qui pointe vers un idéal. Un idéal qui montre que la soif de liberté, d'égalité, de fraternité, de solidarité, de justice sociale et de paix, eh bien, qu'est la vie. L'Église peut être un visage prophétique pour notre société. Ce fut le combat d'un certain pasteur dont nous avons le nom ici au Centre Martin Luther King. Ce fut son combat de croire que l'Évangile avait des implications politiques dans son pays. Mais ce fut avant lui la démarche de Rogers William, que vous ne connaissez peut-être pas, pasteur baptiste du XVIIe siècle, fondateur de l'État de Rhode Island aux États-Unis, qui a mis en place les principes de la laïcité avant la laïcité à la française, mettant dans les statuts de l'État dont il était le fondateur, avec tous les hommes et les femmes de bonne volonté, le principe du respect de la conscience de chacun, le principe du respect de la liberté de croire ou de ne pas croire, interdisant que les gens soient jugés devant appartenir ou ne pas appartenir en fonction de leurs critères de foi ou en fonction de leur couleur de peau ou en fonction de leur statut social. Nous sommes au Centre Martin Luther King ici. Alors je crois que pendant tout ce temps, j'aimerais vous encourager avec vos voisins, en famille, sans que ça ne casse les familles bien entendu. Je suis arrivé en France, on m'a dit qu'il faut toujours éviter les sujets politiques en famille. Donc ce dimanche, je ne veux pas vous amener à vous engueuler. Mais il est possible de promouvoir un idéal de société qui garantit à tous le respect des libertés fondamentales, y compris celle de ne pas croire, donc de ne pas régler sa vie sur la norme de l'Écriture. Ce n'est pas notre choix, nous le regrettons, mais nous ne pouvons pas revendiquer cette liberté que pour les Églises. C'est une liberté pour tout le monde, sinon nous ne sommes pas cohérents. Il est possible de promouvoir un idéal de société basé sur la fraternité, une fraternité commune entre les hommes et les femmes de toutes couleurs et de toutes origines et de toutes les nations. Et c'est pour ça que l'Église du Christ est belle dès à présent. Regardez ce que nous vivons. Il est possible de promouvoir un idéal de justice sociale et de solidarité entre les hommes et les femmes, entre les nations. Un idéal de paix entre les peuples, mais également entre les nations. Alors je nous laisse avec cette pensée du pasteur Erwan Cloarec, un de mes collègues, qui est maintenant président du Conseil national des évangéliques de France, et qui, lors de l'assemblée plénière, c'est l'assemblée générale du CNEF, le 11 juin, c'est tout à fait récent, a eu ces paroles que je trouve justes, et je conclue avec elles. Nous entrons dans une période qui promet d'être difficile pour la société, en France et ailleurs. Elle le sera, assurément aussi dans nos églises. Et il va falloir une pastorale adaptée, non seulement pour que les clivages et les invectives qui travaillent la société ne s'importent pas dans nos communautés. C'est un risque réel que nous transformons l'Église en lieu de débat politique. Et surtout, pour aider l'Église à être, et c'était l'objectif de cette prédication aussi, pour ce contexte particulier, ferment de paix et témoin d'une espérance vivante. Refuser les peurs, les tentations du repli, aussi bien que les promesses humaines de l'endemain qui chantent, et manifester au monde qu'une autre société est possible. L'Église doit être le visage de cette société nouvelle en que Christ forme au milieu d'elle. Nous sommes là face à une urgence pastorale et missionnelle. Je prie vraiment que le Seigneur nous donne cette sagesse et nous donne de montrer que nous sommes cette communauté où le vivre ensemble n'est pas un slogan, mais une réalité, où la justice sociale n'est pas une posture, mais une réalité, où la solidarité est une réalité qu'on concrétise jour après jour, semaine après semaine. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur aussi bénisse notre pays. Je propose juste de prier, puisque nous avons évoqué ce rôle de la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, qui est lumière sur notre sentier. Nous avons chanté que dans les temps de confusion, tu es ce Dieu qui se révèle lumière et par ta parole, tu fais jaillir la clarté sur nos chemins. Alors que l'Europe, le monde entier traverse des temps incertains, Seigneur, nous ne nous trompons pas d'espérance. Nous ne plaçons pas notre espérance dans les instances et les institutions humaines. Nous ne plaçons pas notre espérance en des hommes ou des femmes providentielles, mais notre espérance est en toi. Et au nom de ton évangile et de ton appel à nous aimer les uns les autres, Seigneur, donne-nous de prier pour celles et ceux qui ont la responsabilité de prendre des décisions pour la cohésion sociale, pour le vivre ensemble, pour l'unité des nations et des peuples. Nous voulons te prier pour que dans ces temps particulièrement troubles dans lesquels nous évoluons, que ton Église, que tes Églises aient le courage d'être la voix de la modération, la voix de l'apaisement, la voix aussi qui n'alimente pas les peurs, mais qui montre un chemin d'espérance pour tous les hommes, pour toutes les femmes de ce monde. Nous te prions pour l'unité de notre Église locale, afin que tu nous gardes, Seigneur, unis en toi. Nous te prions pour la réalité de nos vies, dans la différence de qui nous sommes, dans nos différences. Seigneur, donne-nous de les vivre, non pas comme des oppositions, mais comme des opportunités de nous enrichir les uns des autres. Au nom même de Jésus-Christ qui nous a placés sur un même chemin, nous te le demandons, Père. Amen.
Merci. Je demande à la louange de remonter. Et aux personnes qui ont été désignées pour la Sainte-Seine de venir aussi ici. Hier, en préparant cette présidence, je me suis arrêté sur un bouquin qui portait le nom de « Les moyens de grâce dans l'Église ». Et la question de fond qui était portée,